Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Ô Dieu puissant, tu es grand. Nul n'est comparable à toi. Pourquoi tant d'indifférence de la part des hommes? Pourquoi tant de cœurs endurcis? Pourquoi les hommes se comportent-ils comme s'ils seraient toujours sur la terre? Et ne pensent-ils pas à l'éternité? Ne pensent-ils pas aux choses qui viennent vite? La vie n'est qu'une vapeur qui passe, que comme l'herbe des champs qui fleurit aujourd'hui et demain elle est sèche. Et la place où elle était ne se trouve même plus. Ô mon Dieu, rends-nous sages, intelligents. Donne-nous de penser aux valeurs éternelles. Ouvre nos yeux, les yeux de notre entendement, les yeux de notre cœur. Parle-nous encore. Tu es grand. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as fait l'espace, les étoiles, les merveilles, qui a établi ces lois qui régissent l'univers tout entier. Tant de merveilles dans l'infiniment grand, tant de merveilles dans l'infiniment petit. Qu'avons-nous à hésiter encore de croire en toi et dans ta puissance? Qu'avons-nous à hésiter encore? Ô Dieu, touche nos cœurs, c'est le péché qui nous aveugle. Le péché, c'est pour cela que tu es mort sur la croix, pour nous libérer du péché et de la convoitise qui nous enlace si facilement. Parle encore, nous t'en prions. Parle, ô Dieu, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, car tu es ici. Et nous voulons recevoir ce que tu as encore à nous donner. Au nom de Jésus. Oui, notre Dieu est grand. Il est grand. Rien n'est comparable à lui. Depuis déjà plusieurs dimanches, trois dimanches, nous sommes au quatrième, nous sommes sur ce sujet de la convoitise, dans notre étude systématique des 10 commandements, nous sommes au 10e commandement, dans cette première partie qui dit que tu ne convoiteras pas, et ensuite vous avez le développement de la pensée de Dieu, tu ne convoiteras pas ceci, cela, etc., etc. Peut-être que je répète beaucoup de choses, mais peu importe. Nous sommes si durs à en comprendre, si durs à entendre, si durs à mettre en pratique la parole de Dieu. Tu ne convoiteras pas. Et nous avons pris comme exemple cette histoire de Josué dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament. D'Acan qui a convoité. Nous avons lu déjà plusieurs fois ce récit et pourtant j'aimerais encore lire une partie de ce récit aujourd'hui pour nous remémorer ce contexte dans Josué 7 à partir du verset 3. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent que tout le peuple ne monte pas, que 12 ou 3 000 hommes montent et ils battront Haï. Ils sont dans la conquête du pays de la promesse, du pays de Canaan qui est occupé par des nations païennes, et ces nations païennes sont arrivées à un tel niveau de révolte contre Dieu, d'idolâtrie et d'abomination que Dieu, le jugement de Dieu, est tombé sur eux. Savez-vous que Dieu est très patient, mais dès l'instant où il dit c'est fini, c'est assez, il juge. Il emploie certaines fois d'autres nations pour juger. D'autres fois, il utilise des cataclysmes naturels ou des épidémies ou que sais-je encore. Car Dieu parle. Frères et sœurs, nous sommes ses créatures et il nous aime. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais il désire la vie du pécheur. Il est un Dieu qui veut pardonner, qui veut secourir, qui veut aider. Mais lorsqu'on tourne son dos délibérément et qu'on refuse son invitation et qu'on refuse de vouloir le reconnaître, le servir et quitter les œuvres mauvaises, que reste-t-il alors? Que le jugement. Et ce jugement tombe de tant de façons différentes. Et c'est ce qui s'est passé là pour ces Cananéens. Il y avait des cultes abominables. Et Dieu utilise son peuple pour exterminer ces nations et leur donner leur terre en possession. N'avait-il pas promis déjà longtemps à l'avance à Abraham, Isaac et Jacob, ce pays, je te le donnerai et tu le posséderas, toi et ta descendance. Et lorsque nous touchons à la terre d'Israël, nous devons souvenir que c'est la terre de la promesse jusqu'à aujourd'hui. Et les nations n'ont pas le droit de vouloir diviser la terre comme ils l'entendent. Il touche à Dieu, il touche à sa promesse. Et sachez que le dernier mot sera à Dieu qui n'a pas renié sa promesse. Vous le rejetez, vous en porterez les conséquences. Vous l'acceptez, qui que vous soyez, de quelque nation que vous soyez, il vous fait grâce. Et nous, aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. L'alliance de la grâce, la grâce est opérante pour nous, bien plus que pour eux alors dans ce temps-là. Ils étaient sous la loi, et la loi a été très dure pour Achan, car Achan a convoité. Ils revinrent auprès de Josué et lui dire que tout le monde ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent et ils battront Haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent et ils s'enfuirent devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï les battirent et tuèrent environ 36 d'entre eux. Les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir. Ainsi que les anciens d'Israël, ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit, « Ah Seigneur, pourquoi as-tu poussé ce peuple à travers le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie ? À moi, Seigneur, à moi, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Tu as ouvert la porte, tu as ouvert la porte du pays, tu as fait un miracle pour ouvrir le Jourdain. Tu as combattu pour nous devant Jéricho. Les murailles se sont écroulées et nous avons conquis cette place forte, imprenable. Et maintenant, devant cette petite ville, nous nous enfuyons. Qu'y a-t-il? Josué se déchire le cœur. Il ne sait que faire. Les anciens d'Israël sont dans le désarroi le plus complet. Tu as promis à nos pères. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Tu as fait de grands miracles. Tu nous as fait vivre à travers le désert 2 millions de personnes. Tu nous as nourris par la manne du ciel. Tu nous as abreuvés de l'eau du rocher. Et maintenant, devant cette petite poignée d'hommes, nous nous enfuyons, 36 d'entre nous sont morts. Pourquoi? Pour rien du tout. Qu'y a-t-il, ô Dieu? Mais souviens-toi, Israël, que tu es un peuple choisi de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi pour se révéler au monde. D'abord, il s'est révélé à travers Abraham. Et à travers Abraham, sa descendance, les uns après les autres. Certains ont été fidèles, d'autres ont été infidèles. Mais Dieu a toujours aidé ceux qui étaient fidèles. Il les a soutenus. Ils se sont multipliés. Car Dieu a un plan pour l'humanité. Ce n'est pas seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Et à travers ce plan, il veut se révéler au monde de façon graduelle, de génération en génération, pour arriver à cette révélation suprême qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu offert une fois pour toutes en sacrifice pour le salut des hommes. Il a versé son sang. Il a été puni à notre place. Il est notre substitut, Jésus, le Fils de Dieu. Et cette révélation, nous la voyons venir graduellement. D'abord, les sacrifices d'animaux pour le péché, qui couvraient le péché. Ce n'était qu'un symbole, une image de celui qui allait ôter les péchés. Une fois pour toutes, ceux du passé, ceux du présent, ceux du futur, jusqu'à son retour. Car il se cherche un peuple d'hommes et de femmes saints, mis à part pour lui, qu'il viendra chercher bientôt. Nous venons de passer Pâques et à la fête de Pâques, nous avons célébré la résurrection. Ô merveilleux jour. Résurrection, il est ressuscité. Oui, c'est l'assurance que nous, nous ressusciterons avec lui bientôt. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il détruit le péché et il nous donnera un nouveau corps glorifié tel qu'il a eu après sa résurrection. Le premier-né d'entre les morts, nous dit la Bible. Quel plan merveilleux, mais Satan veut détruire. Et voilà, Jésus est dans le désarroi. Dans le désarroi, il ne sait où se tourner. Et Dieu parle, Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. J'avais dit, vous ne prendrez rien de la ville de Jéricho. Vous détruirez tout, absolument tout. Vous ne prendrez rien. Cette ville est frappée d'interdit. Plus tard, il a dit, vous pouvez prendre tout ce qu'il y a dans la ville pour vous. Le bétail, le menu bétail, le gros bétail, les biens que vous y trouvez. Voilà. Mais là, il a dit, non, non. Dieu a des droits. Dieu peut faire ce qu'il veut faire. Qu'avons-nous à vouloir discuter avec Dieu? Et si Dieu a dit, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre dans le jardin, à Adam, tu veux manger de tous les autres, mais pas de celui-là, eh bien, il a des droits, le droit de le faire et de bonnes raisons de le faire. Mais voilà, la convoitise a fait que Adam et Ève ont justement voulu manger de l'arbre que Dieu avait dit « tu n'en mangeras pas », alors qu'il y en avait des dizaines, des centaines d'autres de très bonne qualité qu'ils pouvaient prendre et se nourrir avec. La convoitise, nous y revenons, tu ne convoiteras point. Israël a péché. Comment est-ce qu'Israël a péché? Veux-tu dire que nous tous, nous avons péché? Non, il y en a un parmi vous. Et cette seule personne est suffisante pour amener la malédiction sur tous. Waouh! Quelle responsabilité! Cette seule personne est suffisante. Elle a violé le commandement. Elle a désobéi. Vous ne pourrez vaincre et je ne serai avec vous si vous continuez de la sorte. Si vous admettez au milieu de nous de telles choses. Ah, mais Seigneur, je ne savais pas. Oui, mais maintenant tu sais, alors tu dois agir. Et c'est la même chose dans l'Église, frères et sœurs. Dieu a placé des ministères. Dieu a placé des prédicateurs. Dieu a placé des pasteurs. Dieu a placé des hommes pour veiller sur son troupeau. Et si ces hommes voient quelque chose que son troupeau fait, une personne, deux personnes, cinq personnes, et qui est répréhensible, et que, car vous avez fait alliance avec Dieu depuis que vous avez cru, attention, vous êtes sous l'alliance, vous avez les bénéfices de l'alliance, mais maintenant vous la violez. Alors, les conséquences vont tomber sur tous à cause de vous? Non. Si toi, pasteur, si toi, ancien, si toi, responsable, tu le vois, ton devoir est de parler, d'exposer, de parler d'abord à cet individu pour l'amener à la repentance, de lui parler avec amour, non pas avec jugement, non pas avec dureté, car toi, tu es sous la grâce et tu es ce que tu es par grâce. Et cette grâce a été pour toi et cette grâce est pour l'autre aussi. Et tu l'exhortes avec amour et grâce, mais tu l'exhortes et tu lui dis c'est incompatible. Maintenant, tu n'es plus responsable, c'est lui qui est responsable. Et si le jugement tombe, il ne tombera pas sur l'ensemble, il tombera sur la personne qui a refusé l'exhortation. Vous me comprenez, mes frères? Mais tel est le devoir de ceux qui gardent le troupeau. Ô pasteur, tu n'es pas là seulement pour te tenir et faire des discours devant la foule ou pour recevoir leur argent. Non, non! Que la cupidité ne vienne pas remplir ton cœur, mais l'amour des âmes te pousse au contraire à exhorter, à prêcher, à dire la vérité. Il est impossible que je connaisse la vie personnelle de chacun d'entre vous. Il est impossible que je sache ce que vous faites et comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Il est impossible, mais il est possible que je prêche toute la vérité et que Dieu m'aide à le faire. Afin que les consciences soient ébranlées, que les cœurs soient changés, qu'un nouvel esprit soit au milieu de son peuple. En prêchant la vérité, je me sauve moi-même et je sauve ceux qui m'entendent. Et si je cache la vérité, je me perds moi-même et je perds les autres. Israël a péché. Et c'est pour cela que vous ne serez pas vainqueur. Israël a péché. Et c'est pour cela que vous n'aurez pas de victoire. Israël a péché. Et c'est pour cela que des conséquences de ce péché sont tombées sur les autres, sur des innocents. 36 hommes sont morts à cause du péché d'un. Et celui qui a péché est encore vivant, pour l'instant. Vous savez que quand nous lisons ces récits dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup, beaucoup d'applications à faire à nous aujourd'hui, disciples de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance par le sang de Christ. Sous la grâce, certes, mais ne traitons pas la grâce avec légèreté. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le redirai encore. Seigneur, nous lisons un passage dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, versets 7 à 9, où l'apôtre dit, car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous a été fait. À ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la loi. Voilà en principe. Nous sommes sous le régime de l'esprit et non plus sous le régime de la loi. Le régime de l'esprit, c'est la grâce. Mais la grâce, elle arrivera un jour à sa fin. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Oh! Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, la convoitise, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui me révèle ce qu'est la convoitise si ce n'est la loi? Avant que la loi me dise « Tu ne convoiteras pas », je ne savais pas ce que c'était que de convoiter. Je convoitais sans savoir que je convoitais. Mais dès l'instant où la connaissance est venue de la volonté de Dieu qui dit par la loi « Tu ne convoiteras pas », me voilà maintenant amorcé par la convoitise et je convoite. Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie en moi et je mourus. Est-ce que ceci veut dire que la loi est mauvaise? La loi qui est destinée à faire vivre devient mauvaise pour moi? Oh, certes non, mais Dieu veut nous réveiller à notre torpeur, endormi que nous sommes dans le péché. Il veut nous donner la connaissance et nous faire voir à quel niveau il nous voit. Pauvres créatures, esclaves d'eux-mêmes, dans leur péché et leur suffisance, ignorants de tout et s'en allant à la mort. Non, je ne veux pas qu'ils meurent. Non, je veux les recevoir auprès de moi dans la gloire. Non, je ne veux pas qu'ils soient détruits. Alors, je vais les réveiller par la loi et les rendre conscients de l'état dans lequel ils sont. Autrefois, je convoitais. Autrefois, je tuais. Autrefois, je faisais toutes sortes, je volais. Autrefois, je faisais tout ça. Pourquoi? Parce que j'étais borné, j'étais comme un animal, si vous voulez, sans conscience ni morale. Mais la loi est venue réveiller ma conscience et me donner le sens de la moralité. Et désormais, j'ai une conscience en moi qui me dit « Non, c'est mal. Oui, c'est bien. Pourquoi des lois dans le monde qui régissent notre société? Ces lois sont là afin de mettre des barrières. Et ces barrières, lorsqu'on les respecte, on vit vraiment dans la liberté. Lorsqu'on veut casser les barrières, on tombe dans l'anarchie. Chaque fois que nous méprisons la loi et que nous la piétinons, nous tombons dans l'anarchie et nous devenons esclaves. L'homme libre respecte la loi et le commandement. Car il sait qu'aucune société ne peut subsister sans le commandement, sans les limites. Dieu a mis des limites. Et désormais, ô homme du 21e siècle, tu n'es plus une bête qui ne connaît ni le bien ni le mal. La loi est là dans ton cœur. Et tu sais très bien, même si tu ne vas pas à l'église, même si tu ne vas nulle part et tu ne crois pas en Dieu comme tu le dis et comme tu le prétends, la conscience te dit et te dicte ce que tu devrais faire, même si tu la piétines. Le criminel sait que c'est mal ce qu'il fait. Le voleur sait que c'est mal ce qu'il fait. Le magouilleur sait que c'est mal ce qu'il fait. Et souvenons-nous que chacune de nos actions porte à conséquence sur les autres. 36 hommes sont morts et ils ne savaient même pas pourquoi. Dans ce passage biblique de Romains 7 à 9, il y a des commentaires très importants et intéressants concernant la convoitise. Par l'apôtre qui écrit là, cela représente le péché des péchés. La convoitise représente le péché des péchés. Peut-être nous passons beaucoup de temps dessus, on en passera encore. Mais mes frères, il faut comprendre que c'est la racine de tous les maux de notre société d'aujourd'hui. Pourquoi des chefs sont mis en prison dans notre société? Eh bien, c'est à cause des magouilles, c'est pas vrai? Pourquoi est-ce que des hommes aujourd'hui donnent de l'argent à des militaires pour prendre des armes et pouvoir jeter la pagaille dans la société? C'est par convoitise pour avoir le pouvoir ou pour avoir que sais-je encore. Nous sommes toujours, toujours dictés par la convoitise, le péché des péchés, qui fait tuer les autres pour le bénéfice de soi, détruire la société pour le bénéfice personnel de son avancement, de sa promotion, et peut-être de quelque argent de plus dans la poche, et peut-être de quelques mainmises sur les diamants du Congo, et peut-être quelques avantages, je ne sais quoi encore. Je vous en supplie, jusqu'à quand ce péché des péchés va détruire notre société et nous rendre indifférents vis-à-vis de ceux qui souffrent et qui n'ont rien à manger, rien à boire, et qui cherchent du travail et qui luttent chaque jour pour pouvoir nourrir leurs propres enfants. Ils vous voient faire, et ils se disent, si j'ai la place, je ferai la même chose. Lui a profité, moi je veux profiter. Eh bien non, la société n'ira jamais de l'avant de la sorte. Jamais. Et l'apôtre nous dit bien que là, il y a le péché des péchés. Il est celui qui cause, qui est la cause de tous les autres péchés. Et là, il y a un paradoxe, si vous permettez, dans ce commandement. Un paradoxe, ce commandement est qu'il provoque le péché qu'il condamne. Vous comprenez? Il provoque le péché qu'il condamne. Tu ne convoiteras pas, et parce qu'il est dit, tu ne convoiteras pas, parce que nous sommes tous des hommes et des femmes pleins de convoitise, nous allons convoiter parce qu'il est dit, tu ne convoiteras pas. Vous dites à votre enfant, tu ne toucheras pas, je ne veux pas que tu touches ça. L'enfant, il veut le prendre. Tu n'aurais pas dit, il n'aurait pas pris. Tu lui tapes sur la main, il pleure, et il prend encore. J'ai déjà vu des enfants comme ça. Si tu touches, tu vas voir. La maman tourne le dos. Il prend. On lui tape sur la main, il veut encore prendre. Vous n'avez pas vu ça? Ça, c'est la nature humaine depuis la naissance. Le défendu attire. Le défendu attire. Nous avons intitulé ces messages. Il reste toujours le même. Aujourd'hui, le quatrième. Le défendu attire. Et c'est ce que Paul dit. Tu ne convoiteras pas, bon, je vais convoiter, parce que dans ma chair, il y a le péché. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas, c'est ce que Paul a dit. la chose que je ne dois pas avoir devient celle que je désire le plus posséder ou faire. La chose que la loi m'interdit de posséder et de faire, c'est justement la chose que je veux faire, que je désire faire. Quand je ne savais pas que c'était interdit, je ne le désirais même pas. Et je n'y pensais même pas. Par exemple, les livres interdits deviennent fréquemment les mieux vendus. Les sales journaux qu'on trouve un peu partout aujourd'hui, les sales choses qu'on trouve sur Internet, attention à Internet, je vous en supplie, vous qui avez Internet. Personne ne vous voit, vous êtes enfermé là avec votre ordinateur et tout ça, vous tombez sur un programme épouvantable, sale, dégoûtant. La chair veut, je veux voir. Bon, rapidement, la première fois, vous fermez, mais vous savez où c'est. La deuxième fois, vous tombez dessus. En tout cas, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, comme ça je peux mieux connaître. Excuse ! Est-ce que Dieu te demande de pécher pour pouvoir mieux lutter contre le péché ? Et combien d'hommes et de femmes sont accrochés par ce genre de sottise interdit ? Mais justement, parce que c'est interdit, tu veux l'avoir. Tu veux acheter ce journal. Tu veux acheter ce sale livre. Tu veux voir ce sale film. Tu veux voir ce sale programme. Pourquoi ? Parce que c'est interdit. Et tu te cacheras pour le voir ou pour le lire. L'interdiction de lire un livre le fait justement lire. Les choses défendues deviennent désirables. Pas forcément parce qu'on en a besoin, mais parce qu'elles sont défendues. Combien de gens n'ont même pas besoin de certaines choses? Mais tout simplement, c'est défendu, alors ils désirent le voir. Pourquoi c'est défendu? Je veux savoir pourquoi c'est défendu. J'ai besoin de savoir les raisons pourquoi c'est défendu. Et te voilà accroché dans le mal. Il y a des choses qui n'est pas nécessaire de savoir, mes frères. Et nous devons faire le choix de ce que nous pouvons regarder, nous pouvons lire, nous pouvons dire, nous pouvons écouter. Allons-nous laisser rentrer à l'intérieur de notre âme, par nos oreilles, toutes sortes de sales histoires, par nos yeux, toutes sortes de sales images qui vont polluer notre être intérieur? Je parle là par expérience. Combien de fois nous sommes agressés par des choses ici dans notre monde qui vont vous polluer la pensée et vous devez demander à Dieu, délivre-moi Seigneur, enlève ces images de mon esprit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça m'est arrivé. Nous vivons dans un monde pollué et ces choses vous agressent. Ce qui est défendu devient désirable au plus haut point. Il y a choc entre le 10e commandement et les désirs. Le désir vient de la chair. Je veux, je veux, je veux. Il y a du plaisir. Il y a, comme Satan avait dit à Ève, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. Vous aurez la connaissance. La convoitise. Et on croit au mensonge. Il est bon que vous sachiez. Vous devez savoir. La vie morale d'un homme est d'être conscient qu'il désire, avec l'homme naturel, qui veut pécher, des choses qu'il ne devrait pas avoir ou qu'il ne devrait pas faire. Quelle est votre conception de la morale? La véritable morale, c'est cet homme qui est conscient que les désirs de son homme naturel, ce sont des désirs de péché, des choses qu'il ne devrait pas voir ou ne pas savoir ou ne pas faire. Le sachant, il crucifie la chair et c'est ce que Paul disait, crucifiez la chair et vous n'accomplirez pas ses désirs et ses passions. C'est à ce niveau qu'intervient le choix à faire pour la bonne morale. Le bon choix et pour l'immoralité, le mauvais choix. Chacun d'entre nous, chaque jour, nous sommes affrontés par un choix à faire. Quel choix vais-je faire dans telle circonstance? La chair veut. C'est interdit, mais personne ne me voit. Pardon, personne n'avait vu à quand, lorsqu'il a pris ces choses interdites par Dieu. Mais Dieu l'a vu. Et ces choses cachées que tu ne connais pas, Dieu un jour le révélera ouvertement devant tous. Et grande sera ta honte. Tu as fait croire. Mais la réalité, c'est Dieu qui la connaît. C'est lui, le grand berger. Tous les jours, nous avons un choix à faire les uns et les autres. La loi éveille notre sens du péché. La loi nous révèle ce que c'est que le péché. La loi nous fait voir où nous en sommes aux yeux de Dieu, du Dieu très saint. Quand la loi défend ce que les appétits désirent, cela nous force d'examiner avec sérieux nos actions et nos conséquences et les conséquences de ces actions. Voilà. Examinons avec honnêteté nos actions, les appétits que nous avons toutes sortes d'appétits, de désirs, de, disons, naturels, entre guillemets. Mais est-ce bien de laisser exprimer tous ces désirs dits naturels lorsqu'un homme se marie devant Dieu et qu'ils se promettent l'un à l'autre à partir de ce moment-là seulement? L'homme prend sa femme avec lui et tout le monde sait, ils vivent ensemble et tout est normal. Le reste est anormal. Et c'est ça que nous devons savoir et que nous devons répéter et répéter encore jusqu'à ce que cela rentre dans le cœur. Tout le reste, c'est de la convoitise. Et bien sûr, cet homme et cette femme qui s'aiment et qui se respectent l'un l'autre et qui se sont gardés l'un pour l'autre, Dieu va les bénir. Ils auront un amour solide. Ils auront un amour merveilleux. Gloire à Dieu pour 43 ans de mariage avec ma femme. Et je ne le regrette pas. Et je suis amoureux d'elle encore plus ce jour. Encore plus ce jour qu'au premier jour. Car désormais, ce n'est pas ce qui est extérieur que je regarde, mais la beauté intérieure qui vient d'en haut. Frères et sœurs, et que de joie n'ai-je pas eu avec ma femme. Et ça, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et Dieu ne va pas me le reprocher. Oh non, il ne va pas me le reprocher, car tout cela, c'est lui qui l'a fait. Mais tout le reste, ce sont des convoitises que Satan a ajoutées par-dessus pour détruire le bien que Dieu a fait. Mais Dieu veut vous réhabiliter. Et c'est ça que vous devez comprendre. Quelle qu'ait été votre vie dans le passé, ce qui vous a fait dévier, c'est la convoitise. La loi éveille en nous le sens du péché. Quand la loi défend ce que les appétits désirent, cela nous force d'examiner avec sérieux nos actions et les conséquences de ces actions. En premier, ces conséquences sur nous. En deuxième, sur notre famille. En troisième, sur notre entourage, car personne d'entre nous, nous ne vivons pour nous-mêmes. Vous m'entendez? Toutes nos actions portent à conséquence sur les autres. Sur nous-mêmes, bien sûr. Vous voyez ces gens qui abusent de leur corps par la convoitise, ils se détruisent le corps. Combien d'hommes de mon âge, aujourd'hui j'ai 68 ans, gloire à Dieu, je suis jeune de 68 ans. Mais combien d'hommes de 68 ans ont le corps ruiné sur le bâton? Ils sont malades, ils ont ingurgité combien de nicotine dans leur vie, combien d'alcool dans leur vie, combien de débauches dans leur vie. On a dû les soigner avec des antibiotiques combien de fois contre les maladies vénériennes et contre je ne sais pas quoi. S'ils n'ont pas le sida, bien tant mieux pour eux. Mais ils ont le corps cassé, le corps détruit. Ça paye que de servir Dieu. Oui, le Seigneur peut vous guérir, mais n'oubliez pas que trop souvent, votre maladie est due à la vie de débauche que vous avez menée autrefois. Dieu vous sauve, mais il n'est pas dit que chaque fois il va vous guérir. Soyons réalistes, je vous en supplie. Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Non, il n'en veut pas. Mais combien de fois cette maladie vient de votre débauche, de votre tétutisme. Je suis libre de faire ce que je veux. Non, tu n'es pas libre. La vraie liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est faire ce que Dieu veut. Personne ne vit pour lui-même et par lui-même. Et il y a des conséquences sur les autres, d'abord sur toi-même, ensuite sur ta famille. Pourquoi ? Tu dois être le modèle, toi papa, d'abord, toi maman, ensuite, le modèle pour ceux qui grandissent. Tes enfants seront selon ce que tu es toi. Ils prendront l'image, ils prendront l'exemple sur toi. Voilà. Et tu es responsable de ces vies. Ces vies, tu vas les ruiner, tu vas les détruire par ton mauvais exemple. Ou alors, tu vas les élever. Et tu vas leur faire désirer d'être comme papa et comme maman. Ça porte à conséquence, regardez Achan. Achan, lorsqu'il était découvert par le discernement de l'esprit, et qu'il a dit ce qu'il avait fait, il nous a dit que toute sa famille a été détruite. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, souvenons-nous que dans l'Ancien Testament, dans les Deutéronomes, quelque part, où est-ce que j'ai mis ça ? Je ne suis même plus mes notes. Il est dit, Deutéronome 24, 16, le père ne sera pas mis à mort pour le péché de ses enfants, et les enfants ne seront pas mis à mort pour le péché des parents. Mais maintenant, Achan, sa femme, ses enfants, ses biens, toutes ses possessions sont mises à mort. Achan est un adulte, ses enfants sont grands, ils ne sont plus des mineurs. Et quand Achan a apporté dans sa maison ce qu'il avait pris de Jéricho et que Dieu avait interdit, tout le monde était d'accord. Sa femme a dit, bon, d'accord, je ne dirai rien. Bon, on va creuser dans le sol, on va cacher ça avec du sable par-dessus, personne ne connaîtra rien. Et puis quand on va se déplacer, on trouvera bien le moyen de cacher ça d'une façon ou d'une autre. Et ses enfants, ils étaient déjà grands. Peut-être même que les fils étaient dans le service militaire et qu'eux-mêmes, ils combattaient avec leur père dans l'armée d'Israël. Toujours est-il que tous ont été détruits à cause du péché de lui seul. Pourquoi ? Lui seul les a emportés, les a emmenés. Ils avaient droit de décision. Ils pouvaient dire non, papa, c'était interdit. Elles pouvaient dire non, mon mari, c'est interdit. Elles auraient pu aller vers les conseillers d'Israël, vers les anciens d'Israël. Voilà ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas contents à ce sujet, car l'Éternel a dit que... Non, tout le monde a caché. Tout le monde a caché. Vous voyez que votre décision porte à conséquence sur les vôtres. Vous les entraînez dans le mal. Vous les entraînez dans la désobéissance. Comment ? Pourquoi ? À cause de la convoitise. Le péché des péchés. Ne vous laissez pas attirer par l'attrait du défendu. Ne pensez pas que parce que c'est défendu, ce sera meilleur. Et que c'est par mauvaise intention que c'est défendu. Eh bien, non ! C'est pour votre bien. Pourquoi le défendu serait meilleur que le permis ? Pourquoi ? J'attends la réponse encore. Cela dépend de celui qui a interdit. Je sais que nous sommes dans un monde et une civilisation complètement tordue. Et que certaines fois, on vous interdit des choses simplement par cupidité, par méchanceté, par sottise, et que sais-je, et que sais-je, et que sais-je. Mais croyez-moi que tous les défendus de Dieu sont justes, et c'est pour notre bien. Et nous devons être assez intelligents et assez mûrs spirituellement pour discerner autour de nous ce qui est défendu pour notre bien. Est ce qui est défendu par méchanceté de l'autre. De toute façon, nous n'allons pas faire automatiquement ce qui est défendu pour provoquer qui que ce soit. Nous voulons l'harmonie dans nos familles. Nous voulons l'harmonie dans notre société. Nous voulons l'entente et nous voulons être des exemples. Nous devons être des hommes responsables et réfléchis. Réfléchis. Réfléchissons à nos actions. Réfléchissons à ce que nous allons faire. Faisons le choix et le bon choix, car nous avons tous une liberté complète de choix. Dieu ne nous impose rien. C'est Satan qui impose. Dieu ne casse jamais les portes. Il frappe à la porte et il attend qu'on ouvre. Satan, lui, il casse les portes. Nous devons être des hommes responsables. Nous devons être des hommes réfléchis. Plus nous avons de responsabilités, plus nous devons réfléchir et prendre nos décisions pour le bien commun et non pour un but égoïste de cupidité, pour moi, pour mon ventre, pour mon avantage, pour que je puisse m'acheter 5 camions pour les transports, pour que je puisse avoir mes taxis dans la ville, pour que je puisse ramagasiner de l'argent pour mon propre bien personnel. Non, quand c'est que nous allons abolir cette façon de penser. Si nous sommes en responsabilité, nous sommes l'esclave des autres et nous devons travailler au bien des autres. Cet homme-là sera aimé. Cet homme-là sera respecté. Cet homme-là même, ceux qui le connaissent diront, son salaire est trop bas. Il a beaucoup fait pour nous. Nous allons l'augmenter. Nous allons lui faire du bien. Cet homme-là, il pense aux autres plutôt qu'à lui-même. Voilà ce que Dieu entend. Tu veux être chef? Eh bien, sache que le chef est esclave des autres pour leur faire du bien. Même si esclave est un mot fort, je veux le dire, car nous pensons que d'être chef, c'est d'être le maître despote qui écrase les autres. Eh bien non, mes frères. C'est pour cela que notre société est en complet déséquilibre, car la convoitise nous ronge et nous détruit. Jean 2, 16, 17, il est dit, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est aimer les autres. Et aimer les autres, c'est quoi? C'est s'oublier soi-même en faveur des autres. La convoitise, c'est quoi? C'est l'égoïsme. Et oublier les autres. On ne pense qu'à soi-même. La convoitise est l'amour des objets de la création ou de soi-même plus que du Créateur. Voilà ce que c'est que la convoitise. C'est l'amour des choses de ce monde, des choses fabriquées par nous-mêmes, de la position et que sais-je encore, plus que du Créateur. Elle peut se traduire par de la présomption, la convoitise, par de l'orgueil, par de l'arrogance, la convoitise. Elle se traduit par de la jalousie, par de l'égoïsme. Elle se traduit par de la cupidité, par du mensonge, la convoitise. Elle se traduit par du désordre, par de l'exagération, dans la satisfaction de ces pulsions naturelles qui semblent bonnes à soi-même seulement. La loi condamne la convoitise qui règne dans l'être entier de l'homme pécheur. Romains 6, 2. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Tite 2, 12. La grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Baissons la tête. Seigneur, mon Dieu, tu nous parles encore. Tu nous parles encore, Seigneur. Ô Dieu de grâce, donne-nous d'entendre, de comprendre, de mettre en pratique ta parole, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Combien d'entre nous, nous sommes, Seigneur, enlacés dans nos propres convoitises, enlacés dans nos propres désirs. Et nous ne comprenons pas que ceci porte à conséquence sur les autres, à conséquence, Seigneur, sur notre propre vie, à conséquence sur notre propre famille, à conséquence, Seigneur, sur la société qui nous entoure. plus nous sommes responsables dans la société, plus il y aura des conséquences sur le plus grand nombre de personnes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tant dans la souffrance dans notre pays. Père, s'il te plaît, secoue notre conscience. Secoue notre conscience. Et si nous sommes appelés à servir la nation d'une façon ou d'une autre, que ce soit, Seigneur, sans convoitise pour soi-même, sans penser d'abord à soi-même, mais d'abord aux autres. Et cet homme-là, ce sera alors seulement qu'il sera un vrai patriote. Le vrai patriotisme, Seigneur, ce n'est pas de crier des slogans ou d'insulter les autres qui ne sont pas de la nation, mais c'est d'aimer son peuple et s'oublier soi-même en faveur de son peuple. Aide-nous à comprendre ces principes, Seigneur mon Dieu, et ramène-nous à la vraie perception des choses spirituelles. Que dans ton Église, il y ait un vrai désintéressement personnel pour un vrai intéressement aux choses d'une vraie valeur éternelle. Vous avez entendu cette parole, et je vous exhorte encore ce matin, faites l'examen de vous-même et choisissez. Si c'est la vérité, acceptez-la et vivez-la. Si c'est du mensonge, rejetez-la et ne revenez plus ici. À quoi cela servirait-il de venir écouter des choses comme cela et que ceci soit contre votre conscience et que vous pensiez que c'est faux? Votre conscience vous dicte déjà et vous savez très bien que ce qui était dit là ne vient pas de l'homme mais vient de Dieu. Alors rendez gloire à Dieu. Et demandez-lui la force d'obéir. Cette parole vous a touché. Cette parole vous a repris. Levez-vous là où vous êtes. Si elle vous a touché, si elle vous a repris, levez-vous là où vous êtes, frères et sœurs. Levez-vous là où vous êtes. Vous avez compris des choses que vous n'aviez pas compris. Vous avez saisi des choses que vous n'aviez pas saisies. Et vous désirez avoir la vraie perspective, la perspective selon Dieu, dans la marche du vrai chrétien, de l'enfant de la lumière. Alors levez-vous. Père, je t'apporte ces hommes et ces femmes qui se lèvent maintenant et qu'ils réalisent qu'aujourd'hui, ils ont encore entendu des vérités qui les a touchés. Je prie, Seigneur Jésus, de leur parler dans la conscience, dans le cœur, au fond de leur âme. Seigneur mon Dieu, et de les recevoir, de leur pardonner. Et de te révéler à eux, Seigneur. Oui, pardonne leurs convoitises, pardonne leurs exactions, pardonne de ce qu'ils ont pensé à eux avant de penser aux autres, motivés qu'ils étaient d'abord par leur profit, au lieu de penser au profit des autres, de ceux qui ont plus de besoins qu'eux-mêmes. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, ouvre les yeux de chacun. Maintenant, vous pouvez vous rasseoir.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.